Pavillon Nomade. Le direct.
Bonjour et bienvenue pour ce direct de Pavillon Nomade. Comme tous les jeudis, nous sommes autour de la table du studio. Aujourd'hui, en compagnie de Christophe, de Johan, d'Elvio, de Joël, d'Elena, de Giacomo et de Gabriel, une belle équipe. Avec ce dôme de chaleur exceptionnel, on est sorti, on s'est installé sur la terrasse de la buvette du quartier culturel. Donc si vous nous écoutez dans les pavillons et si vous avez envie de nous rejoindre pour partager une réflexion ou un coup de gueule, pourquoi pas, venez, on vous attend. Des chroniques, il y en aura avec nos deux chroniqueurs du jour, Joël et Elvio. Bonjour.
Bonjour.
En deux mots, de quoi allez-vous parler, Joël ?
Alors, moi, je vais parler de la petite reine du printemps et de tout l'été, la fraise.
Joli programme. Elvio ?
Alors, moi, je vais vous parler de cinq charmantes dames de la campagne anglaise.
Très bien. Aujourd'hui, au quartier culturel, deux artistes terminent leur résidence. Elena Tognoli et François Badou. On reçoit Elena Tognoli. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous après ces deux mois passés ici à Malévo ?
Je vais très bien. Je suis à la fois triste et contente. Triste de terminer, de partir et contente de toutes les découvertes faites ici.
Alors, on va vous parler effectivement de ces découvertes faites ici. Mais pour commencer, quelle est votre pratique artistique ? Quel est votre art ? Parce qu'en regardant un peu sur Internet, j'ai découvert que vous étiez écrivaine, dessinatrice, illustratrice, poète, plasticienne.
Oui, plein de casquettes, n'est-ce pas ?
Absolument.
Moi, j'aime utiliser deux verbes. Je dis que j'écris et je dessine. Et ça peut prendre deux formes différentes. Ça peut devenir des livres illustrés, des dessins en grand format. Ou comme ici, on a une nouveauté qui a été engendrée par mon séjour à Malévo, une installation dessinée. Voilà.
Alors, on va rentrer un tout petit peu dans les détails de cette installation dessinée, mais vous avez dit, vous écrivez et dessinez, et vous précisez pour essayer de comprendre les choses visibles et invisibles. Mmh. C'est juste ?
Tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'utilise souvent dans ma bio. En fait, je crois que souvent, pendant notre vie humaine, pendant nos études, on approfondit vite la pensée analytique, mais on perd un peu la pensée poétique. Et pour les êtres humains, la pensée poétique, la pensée artistique, c'est un moyen fondamental pour comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre différemment. Donc le monde, on peut l'étudier avec les moyens de la science, par exemple, mais aussi on peut l'étudier, le comprendre, ou en tout cas créer un lien avec ce monde que nous habitons, avec les moyens de la poésie et de l'art.
Johan, vous avez participé à l'atelier
Oui, j'ai participé à l'atelier d'Elena.
Et qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, j'ai fait, on devait créer, on devait imiter du bois avec de la peinture noire. Et c'était vraiment inspirant. Ça, moi qui n'aimais pas du tout l'art et tout ça, et à Malévo, j'ai découvert des bonnes choses. Et voilà, c'est trop bien.
Et quand Elena vous parle de la pensée poétique, ça vous évoque quelque chose ?
Oui, surtout en travers de ces arts, et puis même quand on fait une art, parce qu'elle nous disait souvent que l'art, même si elle est imparfaite, elle est parfaite. Voilà, et voilà. Du coup, c'est pour ça que je pense comme ça.
Et vous, Christophe, vous n'avez pas participé à l'atelier ? Elena, qu'est-ce que vous avez appris ici à Malévo en partageant le quotidien, notamment des résidents ?
Qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris qu'on peut se métamorphoser, qu'on peut prendre des formes plus douces, plus souples, et qu'il y a de la force en tout ça, en fait, dans l'acceptation de cette souplesse. Et je crois que l'installation que j'ai faite parle un peu de ça, en fait. C'est une ode à la buvette que je vous invite à venir découvrir.
Effectivement, on va la découvrir tout à l'heure à 17h30. Elvio, vous avez une question ?
Oui, j'ai une question. On a aussi un magnifique parc. J'ai en fait deux questions. Est-ce que vous vous êtes inspiré du parc ? Et si oui, comment ?
Oui, en fait, c'est le parc de Malévaux et le mobilier et les gens qui transitent, qui habitent ici, qui se sont invités dans mon atelier sans que je le cherche trop. Et c'était un peu inéluctable. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, quand on postule pour la résidence, on arrive avec un projet de création. Moi, j'ai commencé avec mon projet. Et au fur et à mesure, il a été un peu transformé par mon séjour ici. Et c'était vraiment quelque chose d'inéluctable. Je ne peux pas qu'utiliser ces mots. Et du coup, j'ai beaucoup dessiné les arbres, par exemple les écorces des arbres du parc, des châtaigniers. Johan vient de dire qu'on a dessiné des écorces. Et ça aussi, les ateliers que je proposais les mardis avec les patients, ils partaient toujours d'une petite action poétique qui était en lien avec le travail que j'étais en train de faire moi à l'atelier. Et pour chaque atelier, j'ai pensé en petite métamorphose, parce que mon projet d'écriture porte sur des métamorphoses d'un personnage. Et dans ces cas-là, nous avions dessiné des écorces tridimensionnelles en papier qu'on pouvait porter, mettre les bras dedans. Mardi, nous avons fait des éclosions. Nous avons fait des œufs et après on s'est dit qu'est-ce qui pourrait éclore de ces œufs. Et tout ça aussi, une trace en fait de ce qu'on a fait pendant les ateliers, ça aussi vous pourrez retrouver aujourd'hui exposé dans les patios à la buvette. Dans la petite cour, ce sont que des traces parce que beaucoup des patients ou des participants qui sont venus aux ateliers ont choisi de repartir avec leur création. Mais d'autres choses, on les a faites collectivement. Et du coup, aujourd'hui, elles sont là pour être regardées.
Quand on arrive ici comme artiste en résidence à Malévaux avec un projet, comme vous le disiez, puis tout à coup, ce projet est un peu déstabilisé. Est-ce qu'il y a une fragilité qui s'installe automatiquement et vous travaillez avec cette fragilité, par exemple ?
Oui, c'est un peu c'est mon expérience. Je crois que pour des artistes différents, c'est différent. Ça marche différemment. Mais la vie à l'atelier, ici ailleurs, est très. Tout est très fragile, toujours. Il y a des moments d'exaltation où tu fais plein de découvertes et des moments de découragement complet. Et ça arrive, même si en pratique artistique depuis des années, plus ou moins professionnelle, ça arrive tout le temps. Et en fait, ce que je peux dire aux gens qui participent à mes ateliers ici ailleurs, souvent il y a un peu cette réaction-là quand on voit son travail et on est déçu. Mais en fait, ça arrive tout le temps, à tout moment de notre pratique artistique. Mais aussi, je trouve que le fait d'être en résidence, c'est aussi une grande force, surtout dans un contexte comme ici au Torrent, parce que il y a déjà une équipe dans les quartiers culturels, il y a d'autres artistes en résidence. Donc oui, créer, c'est souvent faire un saut dans les vides parce qu'on cherche des choses, on ne sait pas exactement ce qu'on cherche. Ça, c'est de la vraie recherche, en fait. Mais l'effet d'être dans un contexte où il y a un petit réseau qui te soutient, à la fin de la journée, tu peux discuter des difficultés que tu as rencontrées ou de tes joies, de tes découvertes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui aide la démarche artistique. En fait, je parlais de cette installation où je fais de petites sculptures tridimensionnelles. Et moi, je crois que ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ça. Mais je ne me permettais pas de faire ça parce que déjà, mon atelier est plus petit qu'ici. Donc, je n'ai pas forcément un espace adapté. Et aussi, je ne me permettais pas de le faire. Et me retrouver ici, ça m'a permis un peu de faire ça.
Johan, en participant à l'atelier d'Elena, qu'est-ce que vous avez découvert ?
J'ai découvert d'abord une personne incroyable qui a une patience énorme et je trouvais qu'elle s'intégrait bien, elle nous faisait du bien. Parce que moi je suis un patient et des fois c'est pas facile. Et puis en espace de quelques minutes, on pense à autre chose et on se met dans les œuvres. Voilà. Et autrement, ouais, j'ai trouvé ça vraiment cool.
Et qu'est-ce que vous avez aimé ?
J'ai aimé les métaphores et la manière de voir les choses. Quand, par exemple, moi, je disais que trouvait pas très très beau ce que j'avais fait, elle nous rassurait en disant bah faut le prendre d'un autre point de vue. Et en fait, c'est beau.
Et quand on voit d'un autre point de vue,
bah en fait, ça va, on se sent mieux et on voit que en fait, on a fait du bon travail. Voilà.
Et là, c'est l'œil de la professionnelle, de l'artiste que vous êtes. Hein.
Oui, ben, en fait, il s'agit pendant un atelier, je crois, oui, on fait quelque chose, mais on vit quelque chose. Et je trouve que mon travail, c'est aussi de créer quelque chose, mais de vivre ensemble le processus de création et toutes les difficultés qu'on traverse quand on fait ça vraiment. On peut faire des ateliers, on fait des jolis objets, on est tout content à la fin. Mais pour moi, ça, c'est oui, ça peut être satisfaisant, mais c'est pas intéressant pour moi parce que je veux vraiment partager avec les participants cette processus, cette démarche de recherche et de création où vraiment on prend le temps et l'espace pour expérimenter, ça veut dire prendre des risques parce que parfois on échoue et c'est presque plus important de savoir vivre ça et de se dire, même comme Johan l'a dit, parfois on n'est pas content, mais moi je ne sais pas de les persuader, de dire mais non c'est beau, mais en fait peut-être il faut juste attendre un moment, peut-être il faut attendre le jour d'après ou une semaine, et avec un peu de recul notre regard change et je trouve que c'est important un peu de vivre ça ensemble.
Vous travaillez toutes les matières ou bien vous avez des matières de prédilection?
Non, je travaille. Moi, à la base, je dessine. J'utilise ces verbes et je dessine principalement sur du papier. Moi, j'ai toujours choisi des matières légères, peu encombrantes, aussi parce que j'ai beaucoup bougé. J'ai vécu dans plusieurs endroits, donc j'ai toujours eu la nécessité de rester légère avec pas trop de bagages, ni personnel, ni artistique. Et je ne sais pas sculpter, je ne sais pas travailler la pierre. J'aimerais faire de la céramique, mais je n'ai jamais fait. Donc pour l'instant, je dirais que c'est du papier. Je travaille sur du papier. Et j'ai une grande sensibilité pour le type du papier, les types de papier.
Le grain.
Ah, tout ça, les grains, les poids, les nuances.
On parlera, là, vous avez publié plusieurs livres, mais le dernier en date, qui se fait s'intitule Les deux lacs, c'est juste?
C'est ça, oui.
Alors, j'avoue, je suis passée à ma librairie préférée de bande dessinée. Ils ne l'avaient pas, ils me l'ont commandé, donc je me réjouis de le découvrir. Parce que l'histoire, on va, bah, parlons-en. C'est quoi cette idée de livre bande dessinée des deux lacs qui, sauf erreur, se lit dans les deux sens, si j'ai bien compris.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle un livre tête-bêche, c'est-à-dire qu'on peut commencer d'un côté et de l'autre côté. Et en fait, c'est l'histoire de deux personnages qui habitent à côté de deux lacs différents. Ce sont deux artisanes. Une femme fait une des deux femmes fait de la vannerie, l'autre elle tisse. Et un des deux lacs est en train de s'évider, l'eau disparaît mystérieusement, tandis que dans l'autre lac, l'environnement est beaucoup plus aquatique, il pleut beaucoup. Et en fait, moi, j'avais envie de faire une histoire qui parlait des formes d'amitié, forme d'amitié un peu mystérieuse où peut-être la parole n'est pas centrale. Et du coup, j'ai voulu faire l'histoire de ces deux personnages qui, de loin, ressentent la présence de l'autre et ils partent à la recherche et finalement elles se retrouvent et elles créent ensemble. Et évidemment, elles se retrouvent au milieu du livre.
Elvio.
Elena, qu'est-ce qui vous a inspiré en fait pour le scénario du livre?
Ah, c'est une bonne question. Je crois que c'est une histoire personnelle, c'est une amitié. Une amitié avec une autrice qui a été très importante pour moi. Et justement, dans cette amitié-là, il y avait beaucoup de choses. On avait besoin de l'une de l'autre pour créer, pour travailler. Évidemment, il y a aussi de la compétition. Il y a des moments où on est plus proche, d'autres où on s'éloigne un peu. Et j'avais envie, en fait, de parler des amitiés artistiques et du fait que les liens entre deux personnes, parfois on veut trouver une étiquette, n'est-ce pas, pour les liens, on dit, ah bon, c'est mon fiancé, ma copine, ma collègue, mais en fait, on a un lien avec une personne qui est unique, nous sommes des personnes uniques, et donc les liens qui s'est créé entre nous est unique. Et donc voilà, pour un peu pour praticité, on utilise le mot amitié, mais parfois ça suffit pas à définir ce que c'est un lien entre deux personnes, même si on n'est pas amoureux ou amoureuse. J'avais envie de parler des sacres.
Et comment cette personne, cet ami, a réagi à votre ouvrage?
Je lui ai dédié les livres et elle était très émue. Après, je ne sais pas à quel point elle a compris qu'il y a un peu d'elle dans l'histoire. Il y a un peu d'elle et un peu d'autres personnes aussi. Mais elle était très émue, oui.
L'amitié, c'est quelque chose d'important pour vous, Christophe? Vous n'avez pas envie de parler. Johan, l'amitié, qu'est-ce que vous en dites?
Alors, moi, j'ai... l'amitié, oui, dans la situation où je suis maintenant, là, j'ai fait des jolies rencontres ici à Malévo en étant hospitalisé. Et ouais, j'ai fait des belles amitiés. Donc oui, pour moi, les bons amis et les bonnes amitiés sont très, très importantes.
Dans ce livre, Les deux lacs, alors il y a effectivement deux personnages importants, si on peut les appeler personnages, ce sont les lacs, donc c'est l'eau. Et sauf erreur, ça vous intéresse aussi tout ce qui est la nature, le sol, les lacs. Il y a eu dernièrement le premier festival européen Sol et Art en France, auquel vous avez participé, je crois.
Le week-end dernier, j'étais là avec Giacomo Sartori, qui est avec nous aujourd'hui, qui va parler par la suite. Et avec Giacomo, nous avons une collaboration artistique où Giacomo, déjà, il le dira lui plus en détail tout à l'heure. Il est écrivain et ingénieur agronome. Et ça fait maintenant 6 ans qu'on fait des projets où on outille, il est écrivain et ingénieur agronome, et on essaie de trouver un peu d'aborder les sols d'une façon poétique et artistique, c'est-à-dire d'utiliser les regards artistiques comme moyen des connaissances. En fait, parce que parfois on s'est dit, bon, c'est une matière scientifique, donc il faut l'étudier avec les langages de la science, des sciences naturelles ou de la chimie ou autre. Mais nous, on a vu en fait que faire des expérimentations artistiques par rapport à ces sujets, ça permet de s'emparer symboliquement et concrètement du sujet d'une façon très puissante. Et ça reste pour moi vraiment une forme de connaissance. Et. Mais justement, il y a une semaine, nous étions à Angers, il faisait très très chaud, comme aujourd'hui. Et il y avait le premier festival européen Sol et Art, où il y avait plein de pédologues. Pédologues, ce sont les spécialistes qui étudient les sols. Moi, je le spécifie parce que moi, jusqu'il y a quelques années, je ne savais pas. Voilà. Il y avait plein de pédologues et d'artistes qui travaillent un peu sur ça. Il y avait une artiste qui enregistrait les bruits du sous-sol, les vers des vers des terres, les chants des insectes. Donc plein vraiment de projets intéressants.
Joël, vous souhaitiez intervenir?
Oui, malgré tout ça, Elena, est-ce que vous ne voulez pas aussi quelque part sensibiliser les gens à la nature, au sol, à l'eau, à la vie en général?
Oui, absolument, absolument. Déjà, l'idée, vous m'aviez posé la question de deux lacs. Comment elle est née, l'idée de ce récit? Il y a cette histoire d'amitié, mais aussi le fait que, je crois que c'était en 2022-2023, moi, je viens des Alpes lombardes, et Giacomo du Trentin, donc dans un milieu très alpin, pas très différent d'ici, les paysages, je dirais. Et en fait, je suis arrivée l'été, et il y avait une sécheresse pas possible. Et un lac où nous avions l'habitude d'aller, de nous baigner, en fait, il était en train de disparaître. Il restait que des cailloux. Et la même été, la Belgique, moi je travaille pas mal avec la Belgique parce que mon éditrice est belge, et était frappée par des pluies et des inondations. C'était surtout sur Liège, mais en fait, en Belgique. Et là, je me dis, mais tiens, là, nous, au sud des Alpes, nous vivons cette sécheresse qui met tout en difficulté. Il y avait des plantes qui mouraient, la végétation est en train de changer. Tandis que, un peu plus vers le nord, bah, c'est tout le contraire. Et là aussi, on s'est dit, on peut dire, bon, là, c'est leur problème, ça, c'est notre problème. Mais finalement, ces deux phénomènes-là sont liés, tout à fait. Et je crois que aussi, pour moi, le travail poétique, l'écriture poétique et la lecture de poésie, c'est quelque chose qui sensibilise envers les voix marginales. Par exemple, les voix de, pas que de personnes, mais aussi les voix de. Les poètes souvent parlent des natures, les voix des insectes, les voix des animaux. Et c'est vraiment quelque chose qui nous apprend à faire attention à quelque chose que, voilà, peut-être dans notre société, nous avons un peu malheureusement désappris à écouter.
Oui, et puis je rebondis, les poètes ne sont-ils pas nos lanceurs d'alerte ? Peut-être.
Bien sûr, peut-être, mais peut-être.
Oui, Elvio. Non, d'accord. Je vous propose une petite pause musicale. Elena Tognoli, vous êtes une artiste, vous nous alertez sur la nature, sur les sols, sur l'art, vous pratiquez votre art. Et il y a une artiste qu'on n'entend pas souvent à la radio qui s'appelle Dominique Dimet, qui chante beaucoup pour les enfants, mais qui a un art du français magnifique. Et là, elle chante la terre.
Je chante la terre pour la rendre un peu moins fragile. Je chante la terre pour les paysages qui défilent, pour les glaciers blancs qui coiffent les pôles dociles et les océans qui caressent le tour des îles. Je chante la terre. Je chante la terre pour la rendre un peu moins fragile. De ses mystères, je dénoue doucement les fils. La dune de sable où le temps se fait immobile. Les coulées de lave où les fleurs poussent malhabiles. Je chante la terre. Je chante la terre pour que les continents respirent. Je chante la terre et je veux croire à l'équilibre de tous ces humains qui depuis si longtemps la pillent, qui oublient soudain qu'ils sont de la même famille. Je chante la terre. Je chante la terre pour tant de beautés en péril. Je chante la terre pour chaque forêt du Brésil, pour les flamants roses qui tendent des toiles graciles, pour les éléphants au regard profond et tranquille. Je chante la terre. Je chante la terre et je voudrais les hommes libres, comme des oiseaux fiers de choisir où ils vont vivre. Je chante la terre pour les souffrances de l'Afrique. Je chante la terre pour le calme des Amériques. Je chante la terre. Je chante la terre pour les femmes de tous les pays. Je chante la terre qui se bat et porte la vie. Je chante la terre pour les peuples que l'on. Je chante la terre pour la misère des sans-abri. Je chante la terre. Je chante la terre et je voudrais les hommes libres. Je chante la terre et je veux croire à l'équilibre. Je chante la terre pour tous les enfants de demain. Je chante la terre pour Manon et pour Antonin. Je chante la terre.
Une belle chanson d'une autrice, compositrice et interprète française, Dominique Dimet, avec des textes qui, je dois bien le dire, s'adressent à notre intelligence et ça fait du bien. Elena Tognoli, merci de nous avoir rejoints pour ce moment à Pavillon Nomade. On va vous laisser rejoindre votre atelier et vous préparer pour cette sortie de résidence. Pour celles et ceux qui nous écoutent ici à Malévaux, les sorties de résidence ont lieu aujourd'hui, la première au Théâtre du Racco à 17h avec François Badou et à 17h30 avec vous, Elena Tognoli, au Torrent, avec à 18h l'apéro. Comme il se doit, merci. Je cite encore votre livre « Les deux lacs », un livre tête-bêche à découvrir aux éditions Esperluette. Merci beaucoup. Le temps de retrouver Elvio pour sa chronique hebdomadaire avec un petit indicatif.
La minute d'Elvio.
Imaginez une prof au bord de la crise de nerfs, une patronne de pub qui décide que le punk rock est une thérapie, une ex-flic qui a vu trop de choses, une sage-femme qui distribue des vérités comme des gifles et une chanteuse chaotique capable de transformer une répétition en catastrophe nationale. Ajoutez à ça la ménopause, des enfants adultes pénibles, des ex toxiques, des secrets de famille, sans oublier beaucoup, beaucoup de vodka, de gin, thé anglais, shakez le tout et vous obtiendrez Riot Woman, une série britannique créée par Sally Wainwright, connue pour mélanger drame social, humour grinçant et personnages féminins ultra bien écrits. La série suit 5 femmes qui montent un groupe de punk rock pour participer à un concours local, avant de réaliser qu'elles ont surtout envie de hurler contre la société entière. Avec une bande de sons oscillant entre Iggy Pop, Skunk Anansie, Hole, Garbage, Alanis Morissette et j'en passe, le ton nous pose sur des airs de comédie acide, d'émotions sincères, de chaos familial et énergique. On va tout cassé. Les protagonistes, Beth est la femme qui gère tout. Elle supporte tout, écoute tout le monde, puis un jour se réveille avec l'envie de se balancer au bout d'une corde. Prof, elle est au bord du burn-out émotionnel permanent. Le punk rock devient pour elle une sorte de thérapie de groupe, mais avec des amplis. Kitty entre dans une pièce comme une tempête émotionnelle avec du mascara. Elle chante, provoque, boit trop et cache un passé compliqué. Mais derrière le côté punk sauvage, Kitty est aussi l'un des personnages les plus vulnérables de la série. Jess est la patronne de pub qui a probablement vu 14 divorces, des millions de bagarres, pléthore de clients ivres et qui continue malgré tout à servir des pintes avec un regard de jugement silencieux. Pragmatique, chaleureuse et dangereusement honnête, c'est elle qui lance l'idée du groupe. Et pour finir, il y a Holly qui arrive enfin à la retraite de policière. Elle possède l'énergie de quelqu'un qui a vu les pires crétins de la planète. Et du coup, elle n'a plus aucune patience. C'est une femme disciplinée, emplie de sarcasme et de fatigue mentale chronique. Et la dernière de la bande, la sœur d'Oli, Yvonne, est sage-femme. Donc, elle a tout vu. Elle est extrêmement sèche. Elle est probablement la plus lucide du groupe, mais vous parle avec la délicatesse d'un marteau-piqueur émotionnel. La série dit clairement « Les femmes de 50 ans existent encore et c'est merci. » Et elles sont en colère. Elles sont drôles. Elles sont brillantes, fatiguées, mais pas mortes. Elles utilisent le punk rock et s'en servent pour transformer leur frustration, leur humiliation, leur solitude et leur charge mentale en bruit très, très, très fort. Et honnêtement, c'est thérapeutique, même pour le spectateur. Le vrai cœur de cette histoire, ce n'est pas le concours musical, ce sont ces femmes qui se soutiennent comme une sororité emplie d'humour noir, d'émotions authentiques, de dialogues mordants et de musique pop-rock. Vous pouvez les suivre sur RTS1 tous les mardis soirs et sur Play RTS, car l'émission a déjà commencé il y a déjà 2 mardis. Et je n'ai qu'une seule chose à vous dire pour conclure, ces femmes nous font un bien fou. Elles nous passent ce message, éclatez-vous !
Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Merci, Elvio. Vous nous rappelez juste le titre de la série ?
Oui, volonté, c'est Riot Woman.
Alors, écoutez, moi, je n'avais pas prévu de mettre de la musique maintenant, mais je pense qu'il y a une personne qui s'impose, une artiste incomparable et qui est tout simplement the best. I call you, I need you, my heart's on fire. laisser Tina Turner continuer Simply the Best. Je vous conseille sur internet de regarder les vidéos où notamment je crois qu'elle a un concert à Amsterdam où elle traverse une rampe en courant qui est la rampe et sur la foule. C'est exceptionnel, elle a plus de 60 ans quand elle fait ça. Magistrale. On va faire une petite page d'histoire avec vous, Gabriel Binder, bonjour.
Bonjour.
Et votre invité, Giacomo Sartori,
voilà.
Bonjour.
Bonjour, merci.
Elena a dit tout à l'heure qu'elle avait un ami qui venait du 30, de la région de Trente, en Italie, dans les montagnes. Et c'est vous, Giacomo Sartori.
Oui, c'est moi.
Alors, vous avez un parcours assez étonnant parce que vous êtes ingénieur agronome, vous travaillez le sol, ça devient là l'intérêt peut-être pour le...
J'ai étudié les sols.
Vous avez étudié les sols. Et puis à partir des sols, vous avez commencé à vous intéresser à la littérature, vous avez publié 4 romans, dont 3 sont traduits en français, Insupportable, Anatomie de la bataille et Sacrificio. Le dernier de la série Cielo Nero, lui, n'a pas encore été traduit et il parle d'un personnage qui va nous intéresser ou qui titille nos oreilles. Il parle de Galeazzo.
Galeazzo Ciano, le mari de Edda Mussolini.
Et voilà, lorsqu'on parle de Mussolini ici à Malevo, tout le monde a ses oreilles un peu tendues du côté du pavillon Les Muguets, puisque à l'extrême fin de la guerre, cette femme était hospitalisée ici. Vous ne savez pas que c'était ici à Malevo ?
Moi, je savais très bien qu'elle avait été en Suisse, mais pas du tout ici. Et quand on l'a découvert avec Elena, vu que j'ai dédié beaucoup de temps à étudier Ciano, ça nous a vraiment étonnés. Que le hasard nous ait joué ce coup.
Mais le hasard nous joue des drôles de coups. Parce que nous avions ici un civiliste pendant une année qui venait, devinez d'où ? Il venait du village où est enterré, où est le caveau familial de Mussolini. Il était de Predappio. Donc, je ne sais pas pourquoi tout nous ramène à Mussolini. Est-ce que vous pouvez juste nous dire en quelques mots qui était ce Ciano, ce comte Ciano.
Et Ciano, c'est le fils d'un fasciste de la première heure et qui est devenu le mari de la fille préférée de aînée et préférée de Mussolini, Edda. Et en réalité, Mussolini ne savait pas quoi faire de sa fille, de cette fille qui était très peu tranquille. Il a choisi de la marier avec quelqu'un. Et c'est lui qui a choisi ce Ciano. Et en réalité, Galeazzo Ciano s'est retrouvé ministre des affaires étrangères de Mussolini à 33 ans. Il avait eu une jeunesse de garçon, pas du tout intéressé par la politique, plutôt vitellone, non, plutôt léger comme ça. Et il s'est retrouvé au centre du fascisme. Et tout le monde le considérait le dauphin de Mussolini.
Toutes ces choses paraissent évidentes pour les Suisses, un petit peu lentement. Hein. Donc Mussolini, c'est un peu le nord de l'Italie, si on veut, la région du Pô.
Oui.
Tandis que Ciano, c'est l'alliance avec la grande aristocratie bourgeoisie romaine.
Oui, romaine et toscane, oui, c'est ça. Oui.
Et puis c'est un mariage, on pourrait dire un mariage princier, le mariage de Edda Ciano et de...
Oui, et très médiatique déjà, parce que comme on savait, le fascisme utilisait les médias d'une façon très... très efficace, hein, et donc tous les journaux parlaient de ça.
Et j'avais entendu dire qu'il y avait 6000 invités au mariage, donc c'est pour ça que je veux dire, c'est quand même un mariage qui a de la gueule. Hein.
Oui.
Edda, elle est utilisée un peu par Mussolini comme son égérie, un peu l'image du fascisme. Oui. Elle fait les couvertures des grands magazines, elle se promène comme une star de cinéma. Oui. Et lui, il était qui alors, lui, son mari ?
C'est un personnage très difficile à définir, parce qu'à la fois léger et qui aimait les blagues, mais aussi avec une profondeur, une intelligence qui l'a montré surtout à la fin, quand on ne va pas raconter toute l'histoire, mais une fois Mussolini est tombé, il a été jugé par un tribunal italien, et les Allemands voulaient absolument qu'il soit éliminé. Il a été condamné à mort et fusillé.
C'est justement, votre roman s'intéresse aux dernières années, aux derniers mois.
Derniers mois, quand il était déjà en prison à Vérone, et les procès s'approchaient. Et lui, il avait déjà compris qu'il n'allait pas s'en sortir. Et donc, il a montré vraiment une finesse, même une classe que qu'avant il n'avait pas eu peut-être.
Mais pourquoi avoir choisi ce moment de sa vie, donc ces derniers mois en prison avant qu'il soit assassiné?
Parce que c'est une tragédie grecque, non? C'est ce que, comment dire, c'est Mussolini qui était à Salo avec sa république fantoche voulue par les nazis, qui fait rien pour sauver le mari de sa fille préférée, avec qui il avait eu toujours un lien très 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 fort, mais il pouvait pas intervenir et voulait pas intervenir. Donc vraiment j'ai toujours trouvé très étonnant que personne ait décrit cet épisode, non? Peut-être parce que le fascisme, c'est encore un thème un peu délicat en Italie, non? On le voit maintenant. Et du coup, mais c'est quelque chose, un épisode vraiment très très fort, je trouve.
J'ai une question. Que devient Eda au moment où son mari est emprisonné?
Et elle fait tout, même, c'était un mariage très libre, hein, comme on dit maintenant, parce que Chan était un tombeur de femmes absolument compulsive, et Eda avait supportait pas ça, et donc ils avaient fini pour vivre ensemble, mais d'une façon très très éloignée, mais là, quand Ciano est arrêté, Eda fait absolument tout pour le sauver. Vraiment, il essaye tout. Et c'est quelque chose de très déchirant. Et elle, après que quand son mari est condamné, elle vient ici en Suisse. Non? Mais malgré ce lien qui on aurait pu croire pas très très fort, on aurait été là elle fait tout pour le sauver.
Oui, elle est en Suisse avec ses deux enfants. Ouais. Son père était assassiné. Son mari a été assassiné et elle n'est pas en grande forme, mais elle a emporté avec elle le journal de Ciano.
Le journal de Ciano que tout le monde cherchait parce qu'on pensait qu'il contenait de vérités qu'on connaissait pas, et choses qui n'étaient pas vraies en réalité, mais c'était considéré, tout le monde le cherchait, les Américains le cherchaient, les Allemands le cherchaient, tout le monde voulait mettre les mains sur ce journal.
Alors vous savez où il était, ce journal? Il était dans le coffre d'une banque à Aigle. Et tous les jours, elle allait à Aigle chercher une page et elle revenait ici, puis elle a dactylographié une page après l'autre de peur qu'on lui vole le journal. Donc elle déchirait page après page et puis elle le recopiait ici. Donc elle se faisait accompagner par un autre patient pour aller à Aigle et pour revenir ici. Le comte Ciano avait quand même beaucoup fait pour que l'Italie s'associe aux nazis et par la suite, il a pensé que c'était une erreur, puis il a beaucoup fait pour qu'elle se décolle des nazis, non ?
Quelqu'un qui changeait vraiment d'avis très, très souvent, et pas très fiable, mais oui, qui n'aimait pas du tout les nazis, et qui les craignait. Mais oui, donc c'est très compliqué le rapport entre Ciano et les Allemands.
Ce journal dont vous parliez, est-ce qu'il a été publié après que Eda l'ait dactylographié?
Oui, il a été publié. Il manque de petites parties, mais en réalité, il n'y a rien de vraiment d'intéressant. Comment dire, c'est intéressant parce que c'est tout l'histoire de toutes les rencontres de ce ministre de qui se trouve au centre des intérêts et des stratégies des pays plus importants de la planète. Mais en réalité, il n'y a rien de personnel. Il n'y a rien de bombe qu'on s'attendait à trouver dedans.
Mais en tant qu'habitant de Trento, ouais, en 2000 et quelques, pourquoi revenir sur cette histoire? Qu'est-ce qui vous intéresse sur ce personnage suffisamment pour en faire le héros d'un roman?
Moi, je suis intéressé au fascisme parce que mes parents étaient fascistes. Dans ma famille, dans plein de familles italiennes, il y avait une partie pro-fasciste et une partie liée à la résistance. Non mon père était fils d'un gérarque fasciste qui avait fait la Première Guerre mondiale. Et du coup, j'ai étudié le fascisme pour écrire mon roman, je crois, le plus important que vous nommiez avant, Anatomie de la bataille, où je raconte justement l'histoire de mon père. Et là, en étudiant le fascisme, que je connaissais très mal, comme tous les Italiens, parce qu'on ne l'apprend pas à l'école, et ça, c'est vraiment dommage. Et j'ai découvert cette histoire qui m'avait beaucoup, beaucoup frappé. J'ai eu envie de la raconter.
Et qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne, soit du fascisme, soit du personnage à la lecture de votre livre?
Décrire, c'est le fascisme quotidien. Non, on connaît plus la façade extérieure, non, celle de la force, de la voix haute comme ça. Mais moi, je crois que une attitude psychologique qui correspond au fascisme, non, et c'est ça que j'ai voulu décrire. Et il y a même un fascisme du langage, un fascisme de la façon de voir le monde, de ne pas se laisser prendre par les émotions, cette partie là peut-être moins connue, moins éclatante que j'ai voulu étudier.
Quand vous dites un fascisme du langage, vous pouvez nous donner un exemple?
Oui, des formules qu'on utilisait. Il faut quand manger, il fallait finir tout ce qu'on avait dans l'assiette, ou bien, et c'était toujours ne pas prendre en compte les émotions. Non, et donner beaucoup plus d'importance à des choses extérieures, non, ne pas s'écouter soi-même. Et c'est ça le fascisme, non, aussi. Et c'est clair que c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup, comme ça a marqué tous mes frères et tous les enfants qui ont connu ça.
Et comme au nazisme, est-ce qu'il y avait des camps spéciaux pour les enfants, pour les conditionner, en fait?
Mon père avait étudié dans une école de ce genre, parce que c'était une famille avec pas beaucoup d'argent, mais il avait étudié dans une école, était très bon à l'école, donc il a vraiment été élevé dans ces structures dont tu parles.
Comme moi, j'ai quelque chose qui m'a frappé, c'est le fait qu'à l'école, on n'apprend pas le fascisme, on n'apprend pas l'histoire. Là, vous avez quand même eu le point, le doigt sur quelque chose qui est très important. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, le monde, partout, de travers, c'est justement parce qu'à l'école, l'histoire n'est pas assez importante.
Et surtout l'histoire récente, oui, la fragilité des démocraties, non, oui, c'est...
Gabriel.
Oui, alors avant de poursuivre, dire qu'on avait reçu ici un auteur qui s'appelle Yann Diner, qui s'intéressait comment l'informatique modifie notre langage. Et il avait utilisé LQI, le langage de l'informatique, et c'était basé sur un ouvrage de Kempeler, la langue LTI, la langue du régime fasciste. En fait, le régime nazi, peu à peu, modifie le langage, transforme le mot, industrialise un peu le langage, les humains et tout, par un processus qu'il avait lui-même étudié. Donc vous pensez qu'il y avait la même chose un peu en Italie dans le...
Absolument, oui, oui. En plus, ils étaient, pour la propagande, étaient très forts, hein, les fascistes. Et Hitler était très admiratif pour ce côté-là. Donc ils ont beaucoup appris de fascistes, de Mussolini. Oui, oui, la phrase typique du fascisme, c'est « me ne frego », je m'en fous, non ? C'est cette arrogance de ne pas tenir compte de l'autre, non ? De ne pas... Et c'est vraiment typique de leur façon de voir le monde.
Et ben voilà, merci. C'est quand même curieux les liens qui nous amènent à...
Merci à vous.
À se déplacer dans le temps et dans l'histoire.
Oui. Merci beaucoup. Votre livre n'est pas encore traduit en français. Est-ce qu'il va l'être ?
Oui, j'y tiens qu'il ressorte en italien parce que ça il est épuisé depuis quelques temps. Donc absolument, je vais me battre parce qu'il ressort. Et je veux absolument qu'il soit traduit en français parce que j'y tiens beaucoup.
Et nous y tenons. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci Gabriel pour cette page d'histoire. Je rajouterai juste un mot. C'est la grande résistante française Lucie Aubrac qui disait que le mot « résister » se conjugue au présent. Et sans transition, on va retrouver la chronique de Joël.
Jo, les bons tuyaux.
Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va parler des petites reines de l'été et du printemps, les fraises. Les fraises, elles existent depuis l'Antiquité, voire même avant. L'Homo erectus se nourrissait de baies et aussi de fraises des bois. À l'époque des Romains, ils ont commencé à l'utiliser non seulement pour se nourrir, en dessert, mais aussi dans les cosmétiques. Ils ont commencé à faire des bains, des petits parfums, de transformer justement le fruit en cosmétique. Aujourd'hui, la fraise, elle se mange tout au long de l'année. Il faut mettre quand même un point important que chez nous, c'est un fruit de saison. Si vous l'achetez en hiver, elles se sont importées et malheureusement, elles n'ont pas de goût, elles coûtent cher et c'est de la mauvaise pub, mais c'est le cas dans beaucoup de surfaces commerciales qui ont créé un besoin alors que la fraise, il faut la consommer d'abord chez nous et avec du goût. Donc actuellement, vous avez les fraises en grande surface, donc elles sont quand même assez chères. Ces fraises, il vaut mieux les acheter quand elles sont à 50%. N'oubliez pas de bien les déballer, de les trier. Parce que de temps en temps, il y en a une qui n'est pas super jolie, de les trier et de les consommer assez rapidement. Pour économiser, encore une fois, vous pouvez aller directement chez le maraîcher et les acheter déjà emballées. Donc, vous allez les payer à un prix moins cher et ça va faire un peu de la vente directe chez le maraîcher. Et encore mieux, aller les ramasser. Dans le Valais central, je crois qu'ici dans le Bas-Valais, il y a des maraîchers qui mettent en libre-service. Le mieux, c'est d'aller une équipe, vous prenez vos contenants, votre cagette, et vous allez ramasser vous-même vos fraises. Vous pouvez les choisir vous-même. Vous passez vers la vendeuse, elle les pèse, elle s'étend le kilo. Donc c'est vraiment très, très avantageux. Et elles sont bonnes. Maintenant, pour les conserver. Alors, pour les faire des confitures avec. Ça, c'est souvent le premier truc qui vient. Les fraises qui sont vraiment bien, bien mûres, faites-en des coulis ou faites-en des salades de fruits. Vous pouvez aussi vous amuser avec vos enfants, bientôt c'est les grandes vacances, faire des pâtes de fruits, de fraises, qui se conservent bien et qui sont des recettes assez simples à trouver. Vous pouvez les faire des pickles avec. Donc les pickles, c'est des fruits et des légumes qui sont conservés dans du vinaigre. Donc vous pouvez mettre la fraise avec la carotte, la fraise avec la betterave rouge. Mais pensez bien, toujours avec un vinaigre assez doux, type balsamique ou type vinaigre de cidre de pomme. Je vais vous donner, pour finir, une petite recette de gazpacho à l'huile d'olive, basilic, sel et poivre. Donc, si vous êtes, si vous faites des grillades, c'est une super entrée. Vous mixez vos fraises, de l'huile d'olive, une poignée de basilic, du sel et du poivre à votre goût, et ça vous fait un gazpacho. Et c'est pas trop lourd. Avant une grillade, ça passe toujours très très bien.
Oh, mais ça, c'est une sacrée recette.
Voilà. Et voilà. Maintenant, une autre méthode de congélation qui est super, c'est lorsque vous avez des très belles fraises. Vous prenez un contenant. Vous les mettez, vous les disposez entières dans votre contenant. Un petit film plastique par-dessus. Et vous faites des couches jusqu'à ce que le contenant est plein. Vous le congelez. Et lorsque vous avez envie de faire un gâteau, ou de faire une décoration avec vos fraises, vous les sortez, elles ne restent pas collées entre elles, vous les disposez sur votre pâtisserie ou sur votre gâteau, elles dégèlent tranquillement et grâce à la congélation, elles ne perdent pas toute leur valeur. Donc elles ne sont pas cuites, tout. Et aussi les coulis, vous pouvez les congeler vos coulis. Donc vous préparez vos coulis, vous dites hop, je mets dans un sachet fraîcheur au congélateur et ça tient super bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les fraises, si vous avez des questions.
Si vous bah justement, j'allais faire un petit tour de table, de savoir, vous nous avez donné, Joël, plein de recettes. Merci, c'est vraiment des bons tuyaux, en tout cas, j'en ai retenu deux. J'allais faire un petit tour de table avec vous qui êtes présents aujourd'hui. Comment est-ce que vous aimez manger les fraises, Marie ?
Mature, bien mûre, bien sucrée, bien parfumée.
Vous rajoutez du sucre ou pas ?
Oh non, parce que si elles sont déjà parfumées et sucrées, ça suffit.
C'est vrai. Johan.
Alors moi, personnellement, je suis très, 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 très gourmand. J'aime bien les fraises avec pas mal de sucre et encore avec de la crème double de la gruyère. L'histoire de faire léger.
C'est pas mal, ça.
Alors voilà. Là, moi, je vous rejoins pour la crème double. Christophe, qu'on n'a pas encore entendu, mais j'imagine que vous aimez manger des fraises.
Hein. Alors, au naturel, c'est comme ça qu'elles conservent leur goût, leur parfum, l'odorat. Au naturel. Hein.
Et vous, Giacomo ?
Moi aussi, au naturel, je crois que c'est le mieux. Quand ils sont bien mûrs. Hein.
Elvio ?
Ah, j'ai une petite préférence pour la confiture aux fraises. Ah, moi, j'aime beaucoup, surtout. Une petite pensée pour ma grand-maman. Voilà.
Et Gabriel ?
Alors, moi aussi, au naturel, mais je viens de découvrir, et Joël me le confirme, qu'on peut utiliser les fraises dans des salades. Et j'ai trouvé ça super. Je viens de découvrir ça à partir de mon ami. Il fait des pokéballs, puis il a commencé à mettre ses fraises dans des avec des cacahuètes ou des. Et puis j'ai trouvé absolument superbe la pointe de vinaigre sur la fraise, un peu de poivre. Étonnant, mais très bon.
Encore mieux, c'est le vinaigre balsamique, mais en crème. Alors là, c'est de la tuerie.
Vous nous avez donné quelques recettes. Je retiens le gazpacho. Ça doit être fantastique. Mais vous, Joël, si on vous donne une fraise, vous la prêtez comment ?
Je la mange. Non, non. Par contre, si j'en ai un cajou, ça c'est sûr que je vais m'amuser à faire des recettes. Et puis les pâtes de fruits, si vous avez des enfants ou des jeunes à la maison, et puis que vous avez congelé trop de fraises, ou faites des pâtes de fruits, c'est tellement bon. Et ça, c'est vraiment un bonbon naturel. Voilà.
Vous nous mettez l'eau à la bouche. Merci infiniment, Joël, pour cette jolie chronique. Et je vous remercie aussi infiniment à vous toutes et tous qui êtes venus partager un moment avec nous autour de la table de Pavillon Nomade, parce qu'on arrive gentiment au terme de cette émission. Cette émission est disponible. Ah, Dominique vient de nous déposer un bac de fraises au milieu de la table. Des magnifiques fraises. On va se régaler. Donc, je vous disais que cette émission est disponible sur le site www.pavillonnomade.com. On se retrouve pas jeudi prochain parce que jeudi prochain c'est la fête Dieu, donc c'est férié ici en Valais comme à Fribourg d'ailleurs, mais on se retrouvera jeudi d'après avec des chroniqueurs, avec Jimmy et avec tout un tas de personnes qui seront invitées à partager ce moment. On va rester sur le thème des fraises. Alors oui, vous m'avez proposé la chanson d'Henri Dess. Si vous êtes d'accord, on ne va pas l'écouter parce que je crois qu'on la connaît tous par cœur. Mais on va terminer avec un titre d'un groupe de rock britannique, Coldplay, qui a écrit un titre qui s'appelle Strawberry Swing, que l'on peut traduire ainsi, la balançoire à fraises. Je remercie Pascal et Dominique et je vous dis à bientôt.